vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 149. Annie Ehrenschmidt, merci de votre visite. Chers amis, bonjour. On va se faire un peu de cinéma. Nous sommes dans un salon de thé très chic, à déguster un éclair à la vanille et de la mousse sur la tasse de chocolat chaud. Ça papote dans tous les coins et soudain, le bruit des voix devient un murmure. Une grande dame très élégante vient d'entrer. Au cinéma, ce serait une princesse russe dans une adaptation de Tchekhov, hein, la dame au petit chien. Bon, je vais faire rougir mon invité, car même sans rien connaître de sa vie privée, on est assez intrigué. Bonjour Annie Ehrenschmidt.
Bonjour.
Alors, intrigué parce que vous m'avez dit avoir porté 4 noms différents. Vous avez eu 3 maris, 2 enfants, une capitale, Paris, avant de venir conquérir Strasbourg. Alors, il y a les circonstances, hein, c'est Flaubert qui disait à la fin de Madame Bovary, c'est la faute à la fatalité, c'est aussi un choix.
Ce
parfois
sont des choix de vie.
Des choix, de changer de nom, de changer d'identité,
oui,
aussi.
Oui, effectivement.
Mais alors, comment ça se passe de changer 4 fois de nom, quand même? Parce que les Alsaciens, ils ont changé 4 fois de nationalité. Là, ils n'avaient pas fait exprès. Vous, voilà. Alors, racontez-moi un petit peu.
Je pense que quand on est toujours à la recherche du grand amour, parfois de belles histoires se terminent. Et donc, lors d'une nouvelle rencontre, on s'engage et on choisit de se marier. De ce fait, effectivement, j'ai été mariée 3 fois. Et j'ai porté 4 noms, puisque mon nom de naissance est Revel. Voilà, c'est le premier nom que j'ai porté.
Oui.
Et ensuite...
Cela favorise la nostalgie?
Pas du tout.
Et des regrets?
Pas de regrets non plus.
Non plus?
Non.
Et des remords, peut-être?
Aucun.
D'avoir mal choisi, non?
Ah, pas du tout. Non. Parce que sur le moment, on pense qu'on a bien choisi. Oui. On ne s'engagerait pas.
Voilà. Et alors, sauf des circonstances dramatiques, vous ne faites pas comme Elizabeth Taylor et Richard Burton, réépouser le
non,
numéro 2 qui est parti
non,
et qui
non,
est revenu.
Non. Mon dernier engagement, c'était donc avec Nicolas Ehrenschmidt, qui n'est pas un inconnu en Alsace,
non,
et surtout
connu,
à Strasbourg,
oui,
bien évidemment. Et malheureusement, il est décédé en 2022. Donc là, c'est une séparation qui n'était effectivement pas du tout mon choix.
Voilà.
Parce que ça a été une union très heureuse, très équilibrante, très sereine et pleine d'amour.
Mmh. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui, parce que, enfin, de vous accueillir, c'est un peu pompeux comme ça, mais parce que souvent, on ne veut pas parler de sa vie privée. Hein, on parle de nos invités précédents, ils nous ont raconté... La semaine dernière, on avait un monsieur qui avait fait des 400 coups avec sa Kalachnikov en Afghanistan,
Monsieur
en Algérie
Cardone,
et tout. Monsieur Cardone,
oui,
vous avez écouté,
connais,
très bien,
oui,
et vous le connaissez.
Oui,
voilà.
Je le connais, oui.
Et avec vous, on va rentrer dans le domaine de là où il ne se passe rien. C'est formidable. Hein. Flaubert disait, je viens déjà de le citer, pour Madame Bovary, il avait dit « je vais écrire un livre sur rien ». Hein, il ne se passe rien. Et vous seriez presque prête à me dire oh « ben moi, j'ai eu une vie très banale hein, ». C'est quoi la banalité? C'est les bouquins d'Annie Ernaux
Éventuellement, oui.
Oui.
Ma vie n'est pas banale, non, c'est vrai.
Non.
Surtout vu de l'extérieur, parce que je pense qu'il y a, par moments, beaucoup de jugements quand on annonce comme ça... au détour d'une conversation, qu'on s'est marié 3 fois, ça interpelle.
Mmh.
Les gens ne comprennent pas, les gens pensent peut-être qu'il y a une certaine instabilité, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, on est peut-être constamment à la recherche du grand amour,
C'est une quête d'identité. Alors, parfois on dit, alors c'est une phrase un petit peu comme ça, bateau, passe-partout, il faut pas, enfin en tout cas c'est ma grand-mère qui racontait ça, qui disait, parce que c'était l'époque où les gens se mariaient un peu par, bon c'était comme ça, hein, mon grand-père qui était le seul survivant de sa compagnie pendant la guerre, il n'y avait plus d'hommes au village, donc c'était, il était le seul. Donc,
c'était des mariages arrangés.
Mais alors, on n'épouse peut-être pas la personne qu'on aime, mais après, on aime la personne qu'on a épousée. Et ça peut être très sincère, ça peut être très beau aussi.
Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, ben moi, c'était toujours par amour. Les mariages étaient toujours.
Deux, trois générations plus tard.
Voilà, c'est ça.
Oui.
J'ai besoin de passion dans ma vie.
La passion.
La passion.
Oui, ça c'est formidable, ça.
Oui, oui. Alors, je suis toujours à la recherche de la passion.
Voilà. Donc, c'est pas banal, ça, quand même. Chercher.
Oui, ça a un prix, peut-être, parce que si...
Que la passion ne s'émousse pas.
Peut-être qu'elle s'émousse, puisqu'après, on rechange de vie.
Oui, mais est-ce qu'à 30 ou 40 ans, on est amoureux comme quand on avait 18 ans?
Non, on est peut-être amoureux de façon plus intelligente, je dirais.
C'est bien d'être amoureux bêtement, non? Moi, je me souviens, j'étais amoureux en troisième. Mon Dieu, c'était formidable. Bon, il ne s'est rien passé, j'ai jamais osé lui parler même.
Ah oui.
Elle s'appelait Monique. Oui, oui.
Peut-être qu'elle nous écoute.
Ah, ça serait trop drôle. Oui, oui. Mais non, c'est, il n'y a pas un éternel recommencement comme chez Gérard Venerval.
Non.
Ah oui.
Non. Bah, les personnes ne sont jamais identiques. Elles sont même parfois complètement à l'opposé.
Oui. Oui, mais elles sont différentes. Mais alors, comment est-ce que... Quelles sont les circonstances qui font qu'on rencontre quelqu'un qui est totalement différent de celle d'avant? C'est qu'on a un potentiel de, comment, d'émerveillement qui est immense.
Oui, effectivement. Si je considère donc les professions de mes... Marie, donc le premier était photographe, le second est médecin, et le troisième avait donc fondé le centre de primatologie. Donc c'est quand même, ce sont des univers très différents.
Oui, et vous êtes passionnée à chaque fois pour les univers de vos maris?
Le premier mari, non. Non, parce que j'étais très jeune. Voilà.
Et vous faisiez quoi, si je peux demander?
Je travaillais à l'époque pour Arfila, c'était une exposition philatélique internationale, j'habitais encore à Paris.
Oui.
Et donc, on a eu la préparation de ces... J'étais secrétaire, en fait. Hein, donc,
oui.
La préparation.
Et vous
de
passionnez pour les timbres?
Non.
Non.
Mais je me passionnais pour la préparation de ces journées.
Oui.
Bon, c'est vrai que c'est un domaine que j'ai un peu découvert, puisque moi, si je devais faire une collection de timbres, ça serait les thèmes, parce que j'aime beaucoup l'art, donc ça aurait été les tableaux. Voilà.
Voilà. Ah oui. Voilà. Autrefois, on faisait des timbres.
Autrefois, on faisait de très belles collections.
Des collections, je me souviens, le timbre de Matisse, les timbres gravés,
exactement,
et tout, magnifiques et tout. Oui, c'est vrai que notre éducation un peu culturelle passait notamment par les timbres.
Oui.
Oui, c'était, on allait voir les collections, et puis c'était les parents ou les grands-parents qui avaient
des
collections. Oui. On se transmettait la collection de timbres par génération. Mm-hmm. Quand tu seras grand, ce sera pour toi, disait le grand-père. Et maintenant, quand vous achetez quelque chose par correspondance, les sagouins collent ces beaux timbres qui datent des années 60, parce qu'ils ont toujours une valeur soi-disant voilà,
d'affranchissement.
Et donc, c'est spolié. Et il n'y a plus de magasin de philatélie à Strasbourg, si?
Il y en a un vers le tribunal, s'il existe toujours. Oui,
c'est le dernier.
C'est le seul que je connais, c'est Choc, me semble-t-il.
Oui, c'est ça, c'était le nom. Oui. Bah, à Wissembourg, il y a un ancien Saint-Cyrien, alors, je peux donner son nom, il s'appelle Auguste Müller, il vient d'écrire un bouquin absolument formidable qui s'appelle La Boucle. C'est un des derniers qui ait participé à la bataille de Dien Bien Phu. Il a, alors, un petit peu comme M. Cardone, ensuite il a fait l'Algérie, ensuite il a fait le Tchad, et puis il était ingénieur, il a monté des grosses boîtes, il a fait plein de sous, et puis il en avait marre, il a arrêté, et il a ouvert un magasin de philatélie qui s'appelait Müller, derrière la place Kléber. Bon, au bout de 2 ans, il en a eu marre, et il a refourgué sa maison à son employé, mais quand même, pendant 2 ans, lui qui avait baroudé partout dans le monde, il s'intéressait aux dentelures, des jolis timbres et tout.
Oui, bah, c'est très, très important, les dents. S'il en manque une, le timbre n'a plus de valeur.
Ah oui.
Oui.
Voilà. Bon, et vous n'avez pas eu un dentiste dans votre vie?
Non.
Voilà.
Non.
Donc, est-ce que vous avez vous-même une collection de timbres?
Non, je n'ai pas.
Non.
J'en ai eu une, justement, collection de
là. Oui, et vous l'avez donnée à vos enfants?
Non, parce que c'est mon deuxième mari, le médecin, qui collectionnait les timbres. Et donc, c'est ma petite collection est restée chez lui.
Chez lui, voilà, d'accord. Et vous n'allez pas revoir votre collection?
Non.
Voilà, c'est pas grave. Donc, on tourne la page des timbres et tout.
Mm.
Voilà. Est-ce que lorsque vous avez, entre guillemets, déménagé d'un mari l'autre... Ah oui, c'est comme le livre de Céline d'un château l'autre, d'un mari l'autre. Non, mais je dis ça de façon très différente. Mm-hmm. Est-ce que vous emmeniez toutes vos affaires avec vous? Alors, peut-être pas les meubles, peut-être pas... Ou alors c'est lui qui partait. Hein. Quels sont les objets qu'on a envie de garder?
J'ai toujours de bonnes relations avec tous. Voilà.
Ah voilà.
Ouais.
Donc, moi je dirais, alors c'est très égoïste de le dire comme ça, moi la seule chose que j'aurais vraiment envie de garder, c'est mes albums photos ou les photos dans les boîtes et mes bouquins. Ça, je ne me vois pas déménager.
Les photos sont mes enfants qui ont les photos.
Voilà. Et les bouquins?
Les bouquins, non, sont restés là où ils étaient. Voilà.
Ah oui. Quel serait votre bouquin préféré que vous emmeneriez sur une île déserte sans mari?
Si je dis Madame Bovary, là, ça va être un petit clin d'œil.
Oh là là, vous êtes trop gentil, vous pouvez revenir la semaine prochaine. Là, voilà. Voilà, d'accord. Et votre film préféré?
En fait, je n'en ai pas.
Non?
Non, il n'y a pas de préféré.
Mais vous regardez?
Je regarde beaucoup de films. Vous voyez beaucoup, surtout qu'actuellement je vis seule et donc
des DVD ou
non
des...
non sur en replay effectivement et aussi sur Netflix.
Voilà. Ah voilà, c'est ça le truc. Moi je suis pas encore passé sur le. Moi je voyais énormément de films avant parce que j'étais un peu critique cinéma dans mon métier de journaliste, donc mais on allait au cinéma à 11h du matin, par exemple, ils faisaient des projections de presse et des choses comme ça. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de films. J'allais à Cannes, à Berlin, à Venise. Et puis je me suis mis au DVD, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour voir 3-4 films de suite et tout.
Mais, et quel est votre film préféré?
Ah, voilà. Alors on me pose la question. Alors, le plus jubilatoire, bon, il est archi, c'est Chantons sous la pluie. Oui, ça c'est vraiment trop bien. Quand à la fin, Debbie Reynolds part en courant et que Gene Kelly dit « Arrêtez-la, c'est elle qui chante et tout !» Mon Dieu, c'est trop... Alors là, je pleure. Mais mon film préféré, alors je vais faire un peu le malin, mais c'est « L'homme à la caméra » de Dziga Vertov.
Je ne connais pas.
Et « L'aurore » de Murnau. Mmh. Alors « L'aurore » de Murnau... Alors je viens de découvrir, parce que ça fait 100 ans que le film, il est sorti en 1926, donc je me suis dit, je vais l'étudier pour faire une petite conférence, comme ça, que je fais de temps en temps dans des associations, et je me suis aperçu que Truffaut avait dit que c'était le film le plus important de l'histoire du cinéma. Ça m'a conforté dans ma fascination, parce que c'est un livre, c'est un film, c'est pas... Je n'ai pas beaucoup d'intérêt à l'histoire, mais c'est la façon dont c'est filmé. Mmh. C'est ça. Hein. C'est la manière de dire les choses est plus importante. Voilà. Il y a L'Arche russe aussi, qui est un film qui date de l'an 2000 et qui est un film d'une heure et demie qui se passe sur 4 ou 5 siècles et qui est fait en une seule prise. Ça, c'est un truc absolument... Oui. Avec 1000 figurants. Mmh. Donc, il y avait 3 mois de répétition avant de tourner. Oui. Et le film a été tourné en 1h30. Mmh. C'est rigolo, ça.
C'est extraordinaire,
voilà, c'est pas mal. Voilà. Autrement, les grands, c'est Citizen Kane, Casablanca, parce que c'est toujours trop bien quand à la fin, les deux se... Voilà, des choses comme ça. Mmh. Mais vous, c'est plutôt dans les comiques ou les...
Bon, je vais beaucoup aux stars. Donc, au cinéma star, on découvre un peu le cinéma du monde.
Alors, donc, c'est des films plutôt actuels. Mais vous êtes plutôt ciné-club aussi, les vieux films, non?
Non.
Non, pas du tout. Ah non, non, non.
Vous savez... Enfin, je ne connais pas. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir. Bon, ça serait effectivement... Il y a toujours tout à découvrir, en fait.
Mais vous savez que le Star, autrefois, c'était une usine de fabrication de vélos.
Non, je ne savais pas.
Ah ben, voilà.
Oui.
C'est René Lesgus, très connu.
Je connais,
voilà.
René Lesgus.
Et donc, il y a, je sais pas, il y a 40 ans, 50 ans, moi j'étais petit journaliste à la télé, on y allait visiter ensemble l'usine de vélo. Il a dit là, oh là, je pourrais faire 3 ou 4 salles de cinéma. Il était à Chétikaïma. Voilà, ben, vous voyez.
J'aurais pu découvrir ça grâce à Robert Béchard, hein, puisque je fais partie de Strasbourg en histoire.
Qui fait une chronique sur Radio Judaïque Strasbourg.
Écoute.
Donc, cher Robert, Annie Ehrenschmidt te salue.
Exactement, voilà. Avec plaisir, oui.
Voilà.
C'est une personne très intéressante.
Donc maintenant, vous êtes une membre active de plein d'associations.
Voilà, donc j'ai découvert récemment la LICRA.
Voilà.
C'est tout, tout récent. Et
la lutte contre les discriminations.
Contre le racisme et l'antisémitisme, c'est un tout. Et je vais, je découvre et je commence une formation, hein, puisque la responsable, donc Fabienne Angèle, est une amie.
Et qui est aussi une habituée de Radio Judaïque à Strasbourg.
Et qui donc m'a permis de découvrir donc, toutes les actions qui sont menées. Que ça soit dans les écoles, dans
les écoles de police,
dans les prisons. J'ai appris qu'il y avait également des actions. Et puis dans le domaine du sport, parce qu'il y a aussi malheureusement beaucoup de discrimination dans le domaine du sport.
C'est ça.
Et donc, il ne faut pas rester inactif. Et si tout le monde réagit, peut-être que ça fera bouger les mentalités.
Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire la prise de conscience.
Raconter, montrer
que c'est pas rigolo de balancer des bananes à un joueur qui est noir et qui vient de mettre un but. C'est ça. C'est un délit, c'est pas les gens n'en sont pas conscients.
C'est au quotidien,
et parfois,
c'est au quotidien,
c'est ça. Et vous êtes aussi dans le milieu artistique, un petit peu. Non, vous n'allez pas dans les galeries de peinture
Oui, effectivement. Ben là, récemment, je suis allée à Bâle voir l'exposition de Cézanne, que je recommande à tous nos auditeurs.
Cézanne Pain,
Cézanne Pain, oui.
Voilà.
Oui, non, c'est... Bon, puis en plus, la ville est magnifique. Enfin, c'est un tout.
Oui. Le Kunstmuseum.
Voilà, exactement.
Voilà, pour voir les tableaux de Klee. Pour quelqu'un qui n'a rien... qui me dit « je suis quelqu'un de tout à fait banal ».
Je suis quelqu'un de très banal et qui pensait ne rien avoir à dire. Bon, alors c'est vrai que merci de guider notre débat, mais bon, c'est très compliqué parler de soi.
Est-ce que vous êtes aussi une bonne cuisinière?
Alors j'aime beaucoup bien manger, mais je ne cuisine plus depuis que je vis seule. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie.
Ah bon?
Non.
Mais vous pourriez vous faire des grands plats et puis
vous les congeler et
ressortir de temps en temps, non?
Non, c'est pas le même charme.
Non. Et quand vous avez
ce que j'aime, c'est être avec des amis, c'est être en groupe. J'aime beaucoup vivre en groupe.
Et donc d'aller dans une pâtisserie, comme j'ai dit au début, pour manger un bon gâteau.
Non, vous n'êtes pas trop gâteau. Non.
Donc si je vous demande la tarte au fromage, c'est pas.
Non, je ne vais pas donner ma recette. Non. Il n'y a pas de recette.
Ah bon, d'accord. Voilà, et tout. Donc, il y a encore plein d'autres choses dans la vie. Vous allez à la piscine, par exemple.
Je vais faire du sport.
Vous faites du sport.
Voilà, le lundi, le mercredi, une petite heure de sport. Et puis, je me suis réinscrite dans une salle de sport. Acrosport, pas nommé, voilà. Et donc, je retourne aussi. Donc, je fais du sport 3 fois par semaine.
Voilà. Et c'est un côté...
Ça me détend, ça me fait du bien.
C'est pour la santé.
La santé et le moral, surtout.
Voilà.
Parce que quand on fait du sport, je veux dire, on se concentre sur ce qu'on fait et on ne pense à rien d'autre. Donc, c'est très bon pour le moral.
Voilà. Parce que vous avez parfois le moral un peu dans les chaussettes
Par moment, c'est pas le moral dans les chaussettes, mais c'est une vie un peu vaine. Moi, j'aime bien être active. Donc, c'est vrai que... J'ai d'activité.
Vos enfants, peut-être que vous êtes grand-mère.
Je suis grand-mère, tout à fait, d'une petite fille, notamment une petite fille qui a 6 ans. Donc j'ai le bonheur de m'occuper d'elle le mercredi parfois.
C'est formidable.
Ça, c'est bien, oui.
Voilà.
Oui, et ça, c'est du bonheur, oui.
Voilà. On dit que la plus belle chose dans la vie, c'est quand on apprend à un enfant à lire. Vous faites de la lecture avec elle.
Oui, mais bon, elle le fait aussi avec sa maman. Et elle aime bien, oui.
Voilà.
Il faut lui lire sa petite histoire le soir avant le coucher.
La banalité, c'est quand même quelque chose de formidable, non? parce que toutes les banalités sont différentes.
Peut-être qu'on a toujours l'impression que les autres ont une vie plus merveilleuse, plus intéressante. Et en fait, on ne sait jamais le fond de chacun ou son ressenti. Mm-hmm. Donc il y a ce que la personne donne à voir, et puis il y a la réalité.
Oui, alors justement la réalité. Alors vous m'avez fait plaisir en disant que votre livre préféré c'était Madame Bovary. Oui. Madame Bovary qui rêvait d'autres choses, d'un autre monde et tout.
Oui, voilà. Elle avait peut-être une vie un peu monotone, un peu sans saveur.
Bon, vous êtes l'anti-Emma alors, parce que bon, votre vie n'a pas été vraiment.
C'est vrai.
Oui, voilà.
Parce qu'on a cherché à toujours être en accord avec ce qu'on ressent. C'est important.
Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est mystique ce que vous venez de me dire, ou est-ce que c'est spirituel? Non.
Pas spirituel, mais bon, ce qui est vrai, c'est que je vais chaque soir, au fin fond de mon lit, je fais un peu le bilan de ma journée. Oui. Et je pense à mes bonnes actions, à mes moins bonnes actions, à ce que j'aurais pu faire. Tous les soirs, il y a un petit examen de conscience.
Oh. C'est ce qu'on faisait à 6 ans.
Oui, ben on le fait encore. On peut le faire encore à.
Oui.
À tous les âges, je pense.
À tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour la jeunesse, on dit, mais.
Ça permet de. Bah, d'être meilleur, tout simplement.
Oui.
C'est important.
Ouais. Et d'être quelqu'un de bien. J'aime bien cette chanson.
Essayer de l'être, déjà.
D'Enzo Enzo, oui. Je la cite souvent. Oui,
oui c'est
essayer
vrai.
De l'être. Oui, oui. Oui mais c'est formidable, ça,
oui.
Non?
Oui, bah,
donc,
oui.
Vous voyez l'avenir avec beaucoup d'optimisme.
Bah, en se disant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, déjà.
Mm-hmm.
Et bah, peut-être que du bonheur.
Bah oui, bon, on vous le souhaite. Bon,
je me le souhaite.
Voilà,
voilà.
Et tout ça.
Et je le souhaite à toutes les personnes que j'aime.
Voilà. C'était l'épisode numéro 149 de Vous l'avez bien connu, Annie Ehrenschmidt. Merci de votre visite.
Bon, merci à vous et merci pour votre accueil.
C'est pour la rime. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne des conseils?
Non.
Non? Une jeune fille qui s'ennuie dans la vie? Vous n'allez pas lui dire, je ne sais pas moi...
Bah, il faut...
Trouver un mari
non, je ne veux pas lui dire ça, non. Trouver l'amour,
c'est dans
peut-être.
La chanson, oui, trouver l'amour.
Oui. Trouver l'amour.
Oui. Mais autrement, vous ne donnez pas des conseils non,
non,
vous n'êtes pas...
On n'est jamais... Enfin, notre expérience ne sert jamais aux autres. Jamais. C'est
ah oui
chaque...
non. Vous pensez que
ah oui.
Ça ne se transmet
non.
pas
non.
On n'a pas un côté... Vous êtes quelqu'un de bien, on se dit, mince, c'est vrai, j'ai envie d'être comme elle. Non, moi, je... Franchement, votre sérénité me séduit.
Ah, bah écoutez...
Voilà.
C'est donc...
Pas seulement votre sourire. Non, 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 non. Non
non, non, non. Enfin, on peut donner un conseil. Si on me pose une question, je vais répondre en fonction
oui,
de ce
bien
que
sûr.
Je crois et ce que je suis.
Non, non, mais le côté un petit
mais
peu...
Mais le côté, j'ai de l'expérience et je veux te dire...
Prosélyte.
Non,
non,
pas du tout.
Non, pas du tout. Non. Voilà. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons nos rencontres avec des gens que l'on connaît un peu et que l'on croise dans l'ascenseur et dont on ne se souvient plus du nom. Vous l'avez bien connu à la technique Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.